Ce matin, j'aimerais voir avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur ces temps-ci. C'est la question du salut. Le fait d'être sauvé, ce que ça implique pour nous. Alors, on pourrait vraiment en parler des jours et des jours, tellement le salut a d'énormes implications dans notre vie. Mais j'aimerais ce matin qu'on revienne vraiment à l'élément premier du salut, à la base même du salut, au fondement même du salut. Dernièrement, je suis tombé sur un texte qui m'a laissé un peu perplexe. C'est Jésus qui dit « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » D'une autre manière, Jésus est ici en train de dire que tous ceux qui se disent chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui semblent reconnaître Jésus comme Seigneur, tous ne seront pas sauvés. Il n'est pas écrit ici tous ceux qui vont à l'église, mais tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a une implication plus importante que, entre guillemets, sans mépris, mais que juste venir à l'église. Il y a une proclamation qui est faite. Et dans cela, tous n'iront pas au royaume des cieux. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu ce texte, ça se trouve en Matthieu 7, et c'est vrai que dans ce texte-ci, nous le lirons un peu plus tard, Jésus fait référence aux faux prophètes. Quand il cite ça, il est en train justement de pointer du doigt les faux prophètes. Mais cependant, je pense que l'on peut étendre la réflexion. Je reste convaincu que le but d'un texte n'est jamais de pointer les autres du doigt, mais aussi de nous interpeller nous-mêmes. Peut-être que la question vous semblera difficile, mais qu'en est-il de nous ? Faisons-nous partie de ceux qui rentreront dans le royaume des cieux ? Qu'est-ce qui nous permet d'être certains de notre salut ? Le fait que Jésus soit mort sur la croix ? C'est vrai, mais n'est-il pas aussi mort pour ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui n'entreront pas dans le royaume ? Jésus n'est-il pas mort pour tous ? Pourquoi donc ? Tous ne seront pas sauvés. Alors je soulève beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de tout voir ce matin, mais je montre un peu toutes les implications qu'il peut y avoir lorsqu'on parle du salut. Qu'est-ce qui me garantit que moi, vous, qu'est-ce qui me garantit que moi je serai sauvé? Alors je suis conscient que la question peut sembler difficile, voire même dérangeante, et mon but n'est pas de semer le doute ce matin. Je ne veux pas que vous partiez en disant finalement est-ce que je suis sauvé ou pas. Mais je reste convaincu que parler du salut, c'est parler de la fondation de notre vie. Si notre vie ne se fonde pas sur Jésus, alors elle ne peut pas tenir. À la suite du texte que nous allons lire, Jésus parle de cette fameuse parabole de la maison bâtie sur le roc et de la maison bâtie sur le sable. On connaît tous un peu cette parabole. Du moins, si on a l'habitude de venir à l'église, c'est voilà, si on suffit de faire un camp à Limoges ou à Genval pour qu'on chante ce chant hein, que le fou a construit la maison sur le sable. Et bien souvent, on explique cette parabole en disant que celui qui fonde sa maison sur le roc, sur Jésus, ben sera à l'abri des tempêtes. Et on interprète les tempêtes comme les difficultés de la vie. Mais même si je pense que cette interprétation est correcte, je pense que le sens premier n'est pas là. Je pense que, et on le verra plus précisément avec l'étude de notre texte, mais que Jésus ici est en train de nous dire « Si vous fondez votre vie sur moi, à la fin des temps, votre vie ne sera pas balayée. À la fin des temps, vous entrerez dans le royaume des cieux. » Parce que on aura beau avoir fait les plus belles œuvres au monde, avoir créé le vaccin contre le cancer, avoir créé une pilule qu'on distribuerait gratuitement et qui résoudrait le problème de la faim dans le monde, on aura beau avoir fait tout ça, si notre vie n'est pas fondée sur Jésus, elle sera balayée à la fin des temps. Dans ce groupe de ceux qui appellent Jésus Seigneur, il y a donc deux catégories. Ceux qui bâtissent leur vie sur Jésus et ceux qui la bâtissent sur autre chose. Voyons un peu ce qui les différencie en lisant tout d'abord notre texte en Matthieu 7, les versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de projeter les textes. On lira aussi le verset 24 pour justement montrer que le but de ce texte n'est pas juste de nous pointer, enfin de pointer les autres du doigt. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Jusque-là, la lecture. Ce dernier verset nous montre à quel point le but de Jésus n'est pas juste de nous aider à pointer les autres du doigt, mais un but pratique pour notre vie. Alors, le verset 21, le premier verset que nous avons lu, il est sans détour. Seulement celui qui fera la volonté de Dieu entrera dans le royaume des cieux. On pourrait résumer ce verset 21 comme ça. Enfin, ce ne sont pas ceux qui disent, mais celui qui fait. Ce ne sont pas ceux qui disent, mais celui qui fait. C'est assez facile de dire « je t'aime » de manière normale. Je sais que voilà, selon le vécu de certains, il y a des mots plus difficiles que d'autres à dire, mais de manière générale, dire « je t'aime », ça ne coûte pas grand-chose. On peut le dire en le pensant sincèrement, comme on peut le dire sans le penser, juste pour faire plaisir à l'autre, de dire « oui, oui, allez, oui, je t'aime ». Mais faire en sorte que l'autre, se sente véritablement aimé, ça c'est bien plus difficile. Car pour que l'autre se sente aimé, ça se fait pas juste en une parole qu'on prononce en une seconde, c'est tout un cadre qu'on doit mettre en place, toute une dynamique, toute une manière d'être vis-à-vis d'elle pour qu'elle se sente aimée. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement. De la même manière, Jésus est en train de nous dire que les actes comptent bien plus que les paroles. Un frère m'a dit un jour, « Ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. » Qui suis-je dans ma vie quotidienne ? Qui suis-je au travail ? Qui suis-je durant mes études ? Qui suis-je dans le privé ? Qui suis-je en vacances ? Qui suis-je en soirée ? Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que je suis le dimanche matin, ce que je suis quand je suis en train de lire ma Bible, et ce que je suis quand je suis entouré de personnes non chrétiennes ? Quand je suis dans un contexte... Il y a parfois, on observe un peu ça dans les églises, et en parlant avec des frères pasteurs, je me rends compte à quel point c'est vraiment répandu, qu'en période de vacances, c'est comme si, voilà, on a été chrétien toute l'année, maintenant on va prendre 2 mois de vacances, hein, et on observe que les chrétiens en vacances, ben, ont beaucoup plus difficile à maintenir un rythme régulier dans leur relation avec Dieu. Il y a peu de chrétiens que lorsqu'ils partent en vacances à la plage, prennent leur Bible avec eux. Comme si, voilà, maintenant je vais pouvoir respirer, profiter un peu de mes vacances, et Dieu, ben, ce sera à la rentrée en septembre. Qui suis-je dans le quotidien de ma vie ? Jésus n'attend pas de nous de belles paroles, mais plutôt des actes. Et quand on entend ça, quand on entend parler d'actes à produire, on sera alors parfois tenté de prendre l'Écriture et de dire « Bon, mais alors, qu'est-ce que je dois faire pour être un bon chrétien ? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu ?» Et la Bible se transforme tout d'un coup en un livre de loi. Or, je reste convaincu que, oui, dans l'Écriture, il y a des choses qu'on doit mettre en pratique. Il y a des éléments de loi qu'on doit mettre en pratique. Mais l'Écriture est avant tout un livre de rencontre. Son but, c'est pas de nous apprendre à être le bon petit chrétien, mais de passer un moment de rencontre avec notre Dieu. Notre vie quotidienne nous permet de montrer à Dieu combien nous l'aimons. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus autant de règles que dans l'Ancien Testament. On compte plus de 600 règles de loi dans l'Ancien Testament, que le peuple juif se devait d'obéir pour espérer rentrer dans le royaume des cieux. Dans le Nouveau Testament, on ne retrouve plus ce genre de choses. Oui, on entend toujours des choses qu'on ne doit pas faire, effectivement. Mais il y avait cet homme un jour qui qui arrivent et qui demandent à Jésus quel est le commandement le plus important, quel est le commandement le plus grand. Jésus le résume en un mot, aime. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi se résume en un mot, aime. Aime Dieu, aime ton prochain. Mais déjà dans l'Ancien Testament, quand le prophète Jérémie annonçait cette nouvelle alliance à venir, il dira mais que cette loi ne sera plus gravée sur des tablettes de pierre, mais dans le cœur de ceux qui deviendront le peuple de Dieu, dans notre cœur. Faire la volonté de Dieu n'est autre que de montrer à Dieu combien nous l'aimons. Tout ce que nous choisissons de faire pour Dieu, nous devrions le faire par amour et pour rien d'autre. Non pas par peur de ne pas être sauvé, de se dire « mais mince, si je fais la moindre erreur, je vais devoir me repentir pendant 2-3 jours pour espérer retrouver mon salut ». Non pas pour faire des choses en espérant recevoir en échange. Il y a beaucoup de, enfin, dans les entretiens que j'ai pu déjà, que j'ai pu avoir avec certains frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui ressortent de cette manière. Ils se disent, mais, moi, je trouve que Dieu, il est ingrat. J'ai été à l'église tous les dimanches, j'ai payé ma dîme à chaque fois, et voilà ce qui m'arrive dans ma vie. Comme si cette personne se disait, si je donne à Dieu, je suis en droit d'attendre en retour des choses de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, si je donne quelque chose en attente de recevoir, ce que je donne n'est pas gratuit. Ce que je donne n'est pas de l'amour, c'est de l'investissement. Lorsque Matthieu nous redonne ces paroles de Jésus en Matthieu 7, ça fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui commence au chapitre 5 et qui va jusqu'à la fin du chapitre 7. Et ce sermon sur la montagne, c'est l'instruction que Jésus donne à ses disciples. C'est un peu comme s'il était en train de dire, voilà ce que j'attends de ceux qui veulent me suivre. Vivre par amour pour lui. Le disciple, c'est celui qui aime son Dieu et qui le prouve au travers de son obéissance à sa volonté. On peut aussi diviser la volonté de Dieu en deux parties. Une partie que j'appellerais une partie commune à toutes les personnes. Quand Dieu dit, ben, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Ça, c'est d'ordre, enfin, c'est tout le monde se doit de respecter ça. C'est une loi qui demeure encore aujourd'hui. Et puis, il y a une partie plus individuelle de la volonté de Dieu. On est tous différents. On a tous des forces et des faiblesses différentes. On ne réagit pas tous de la même manière, car on n'a pas tous le même caractère. En fonction de qui nous sommes et de comment nous réagissons, nous devons adapter notre manière de vivre pour qu'elle reste en adéquation avec notre obéissance à Dieu. Prenons l'exemple de deux couples. Alors, on le sait, il n'y a pas deux couples pareils. Il suffit d'observer un petit peu ce qu'on connaît, on se rend compte qu'il n'y a pas deux couples pareils. Pourtant, et je l'espère, l'objectif est commun, être heureux ensemble. Mais le moyen d'y parvenir est propre à chaque couple. Il y en a qui, pour se sentir heureux, ont besoin ensemble de partir très loin, d'autres de construire des projets, d'autres encore de rester à la maison ensemble et vraiment de se coucouner. Avec Dieu, c'est un petit peu la même chose. L'objectif est commun, obéir à la volonté de Dieu. Ça, c'est la même ligne de conduite pour tout être humain et encore plus pour tout enfant de Dieu. Mais le chemin peut être différent. Je suis pas en train de dire ici qu'il y a des choses qui sont péchées pour l'un et pas péchées pour l'autre. Ce qui est péché pour tout le monde. Je suis en train ici plutôt de parler des tentations. Ce qui est une tentation pour une personne ne l'est pas forcément pour l'autre. Il y a des choses pour lesquelles je dois vraiment faire attention. Et pour une autre personne, ben, lui, il se dit, mais non, moi, ça me tente pas du tout. Il n'y a qu'à prendre un exemple assez connu, je pense, celui de l'alcoolisme. À la maison, on a 2-3 bouteilles d'alcool et il y en a, ça fait 4 ans qu'elles sont là, elles sont toujours pas vidées. Pour moi, ce n'est pas une occasion de chute, pour moi, mais il y en a pour qui ce serait impensable. Ces choses-là, c'est des choses qui sont propres à chacun, c'est les combats personnels de chacun, ça fait partie de la sanctification de chacun. Et là, devant Dieu, nous sommes responsables d'être également obéissants. Vous savez, dans l'Écriture, il n'est pas dit, tu ne prendras pas de cocaïne, tu ne prendras pas de cannabis, tu ne prendras pas ci, tu ne prendras pas ça. Mais que me dit mon cœur devant Dieu? Est-ce que je suis en paix devant Dieu en faisant ces choses? Oui, dans la Bible, il n'est pas dit, tu n'iras pas, en boîte de nuit, tu ne fumeras pas de cigarette. C'est pas écrit tout ça. Mais que dit mon cœur devant Dieu? En toute honnêteté, est-ce que je suis en paix devant Dieu en faisant ces choses? Est-ce que quand je sors et que je bois tellement que je ne sais même plus ce que je fais et que les autres se... Là, je parle un petit peu en connaissance de cause, c'est quand j'étais en secondaire. Quand j'ai dit à mes camarades de classe, comme on dit, quand j'ai dit que j'étais chrétien, ils ont tous fait des yeux comme ça. Ils ont dit, quoi, toi chrétien, c'est... Certains m'ont dit, mais t'es même pire que moi dans ce que tu fais. Et moi, ça m'a fait un choc. Je me dis, mais... Parce que j'aimais bien, j'étais très très timide. Je suis toujours un petit peu, mais pour m'aider, ben voilà, je buvais un verre ou deux, et puis hop, l'inhibition faisait que je devenais un peu... Bref. Et ça m'a fait un choc, je me dis, mais... Ouais, pour ceux que je fréquente à l'église, j'ai l'air de quelqu'un correct. Mais pour ceux qui me voient plus souvent, ils me considèrent comme pire qu'eux. Il y a un décalage qui est là. Et Dieu me demandait de mettre certaines choses en ordre dans ma vie. Quand je ne les mettais pas en ordre, je vivais dans la désobéissance à Dieu. J'espère qu'on comprend un petit peu mieux cette différence entre la volonté commune, j'en perds mes mots. Voilà, la volonté de Dieu commune à toutes les personnes, et puis celles plus personnelles, celles qui font partie de notre être. Certains doivent travailler leur colère, parce qu'ils se mettent en colère beaucoup trop vite. Et pour eux, cette colère est péché. Pour d'autres, la colère n'est pas un problème, et Dieu ne leur demandera pas de travailler la colère. Il leur demandera de travailler autre chose. On a tous une route différente. Mais la règle est la même, obéir à Dieu. Obéir à la volonté de Dieu, ce n'est pas juste être chrétien dans les grandes lignes. Mais c'est lui manifester notre amour dans chaque domaine de notre vie. Ce que je regarde à la télé, ce que je lis comme livre, ce que j'écoute comme musique, peu importe. C'est lui montrer notre amour pour lui. Pas le faire juste parce que papa, maman l'a dit, parce que le pasteur l'a dit ou autre. Il ne s'agit pas d'écouter bêtement, mais de vivre cette relation d'amour. C'est la grande différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est qu'on est passé... c'est dans Hébreux 6, je pense, mais je suis plus certain de la référence, mais on est passé derrière le voile. On est entré dans le lieu trois fois saint de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, on a accès à toute l'intimité de Dieu. Ce qui n'était pas permis avant. Nous sommes appelés à vivre cette dimension-là. Ainsi, la désobéissance, c'est vivre sans tenir compte de la volonté de Dieu. Vivre pour soi en se plaçant comme seul maître sur notre vie. De dire, Dieu, toi, je te donne ça de mon agenda. Le reste, je m'en occupe. Seigneur, ça, oui, je sais que t'aimes pas, mais moi j'aime bien, t'en occupe pas. Là, c'est vivre dans la désobéissance. Le pire, et c'est ce que Jésus dénonce dans notre texte, c'est que l'on peut être désobéissant tout en ayant le parfait aspect chrétien. Avoir une belle façade ne suffit pas. Dieu regarde aussi à l'intérieur. On arrive à notre deuxième point. Donc, le premier point, c'est la volonté de Dieu. Le deuxième et dernier point, c'est être connu de Jésus. La réponse de Jésus à ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui sont désobéissants, est « Je ne vous ai jamais connu. » À ceux qui ne vivent pas dans l'obéissance, cette réponse de Jésus « Je ne vous ai jamais connu » ne fait que confirmer tout ce que nous venons de voir. Car la véritable obéissance, celle qui caractérise l'enfant de Dieu, provient de sa relation avec Jésus. Provient du fait d'être connu de Jésus et par extension de connaître Jésus. Le « je ne vous ai jamais connu » montre bien que ces personnes se servaient de Jésus au lieu de le servir. Et leur réponse d'ailleurs les trahit quand ils disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, trois fois en ton nom ?» Comme si le nom de Jésus était un outil, une formule magique. Ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose qui a un aspect chrétien qu'il est selon la volonté de Dieu. Être connu de Jésus, c'est vivre dans son intimité. Ainsi, tout ce que l'on entreprendra de faire pour lui correspond à sa volonté. On n'est pas tous appelés à être évangélistes, à tout quitter et à passer son temps à faire des campagnes d'évangélisation. On n'est pas tous appelés à faire ça. On est tous appelés à annoncer l'évangile, mais d'une manière qui correspond au cadre de vie que Dieu a mis en place pour nous. Certains ont le ministère plus particulier, d'autres à l'école, au travail, etc. Ce n'est pas parce que nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile, c'est pas parce qu'on est appelé aussi à fonder des églises, à baptiser, qu'on doit le faire à tour de bras, par habitude. N'oublions pas qu'avant de donner à Pierre, à l'apôtre Pierre, le titre de pêcheur d'hommes, il y a eu juste avant l'épisode de la pêche miraculeuse, l'apôtre Pierre, un pêcheur expérimenté, pendant toute une nuit, pêche et ne prend rien. C'était anormal pour lui, il avait de l'expérience, il avait toutes les capacités pour le faire. Puis Jésus arrive et dit, va jeter tes filets là-bas. La pêche miraculeuse vient. Et après Jésus a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Quelle leçon pour Pierre qu'il apprend que peu importe ses capacités, peu importe ce qu'il a acquis, ce qui compte le plus, c'est ce que Jésus lui dit. C'est l'endroit où Jésus lui demandera de jeter ses filets. Si Jésus ne nous dit pas où lancer nos filets lors d'une campagne d'évangélisation, par exemple, nous pouvons perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et même beaucoup d'argent. Et ce n'est pas parce que c'est de l'évangélisation que d'office c'est la volonté de Dieu. Je sais que ce que je dis peut choquer, mais n'oublions pas que l'apôtre Paul à deux reprises a été empêché d'aller à un endroit. Lui, il voulait juste évangéliser. Il voulait aller en Asie, l'apôtre Paul. L'Esprit Saint lui a dit, non, tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas évangéliser là-bas. Acte 16, versets 6 à 7. N'oublions pas non plus que ces personnes dont il s'agit dans notre texte, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ont fait des miracles, ont enseigné, ont chassé des démons. Et Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. C'est pas je ne vous connais plus, c'est je ne vous ai jamais connus. Pire même, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors je ne suis pas en train de dire que si on fait une campagne d'évangélisation, et qu'avant on n'a pas une révélation, on n'a pas une illumination, on est en train de commettre un péché, pas du tout. Mais juste que lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, quels que soient les moyens dont nous disposons, si Dieu nous dit « va faire ça », c'est qu'il garantit lui-même le résultat. Pensons à Gédéon quand Dieu lui a de plus en plus réduit son armée pour aller conquérir ses ennemis, parce qu'il voulait que Gédéon apprenne à faire confiance à Dieu. Et pas à la grandeur de son armée. Être connu de Jésus, c'est donc être en phase avec sa volonté. Finalement, et pour conclure, tout ce qu'on vient de voir se résume juste en deux mots. Aimer Dieu. Uniquement. S'il y a une chose à retenir ce matin, c'est juste aimer Dieu. Car ceux qui renient Jésus, ceux qui vivent en commettant le mal, ce sont simplement ces personnes qui n'aiment pas Dieu, qui décident de mettre Dieu de côté pour faire leur propre volonté. Que cette volonté ressemble à celle de Dieu ou non, peu importe. C'est peut-être moins courant maintenant, mais à l'époque, il y avait des gens qui profitaient de la crédulité des autres, qui se faisaient passer pour apôtres, qui se faisaient passer pour prophètes, et comme ça, ils vivaient sur le dos des autres. Ils annonçaient certaines paroles, ils accomplissaient certains actes, il y avait aussi de la magie à ça, dans ce contexte-ci. On voit avec Simon le magicien qui faisait aussi des choses. Et donc, ils profitaient des gens, ils annonçaient, ils parlaient de Jésus, mais dans leur propre intérêt. Mais le but, encore une fois ce matin, ce n'est pas juste de pointer, il y a cet avertissement dans ce texte aussi, de nous dire « faites attention ». On reconnaît, ce sera le texte juste avant celui que nous venons de lire, Jésus dira « on reconnaît un arbre à ses fruits ». Ne vous laissez pas enjoliver par les belles paroles, par les beaux actes. Regardez non pas ce que fait la personne, mais ce que est la personne. En conclusion, que faire? Car je suis conscient que, déjà j'ai donné un paquet d'informations, mais on pourrait se dire « mais alors, qu'est-ce que je dois faire moi aujourd'hui, concrètement ?» Je suis conscient qu'il n'y a pas une seule personne parfaite parmi nous. Que durant cette semaine, nous avons sûrement désobéi à Dieu, au moins une fois. Et le but n'est pas de se dire, oh, ben alors j'entrerai pas dans le royaume de Dieu. Le but est simplement de replacer la base même du salut, une relation d'amour. Si notre foi ne se base pas sur une relation d'amour, on peut tout arrêter tout de suite. Et se dire, Seigneur, je veux repartir à zéro parce que là, j'ai déconné. Là, j'agis dans mon propre intérêt et pas pour toi. Là, je ne fais que les choses qui m'arrangent et pas celles que tu me demandes. Aimons-nous Dieu ? Au lieu de lui répondre par des mots, montrons-lui par des actes. Répondons-lui par notre désir de passer du temps avec lui, par exemple. Répondons par notre amour de mettre, par notre désir de mettre notre vie en ordre pour lui. Pour ce que nous savons déjà et rester à l'écoute pour ce que nous ne savons pas encore. Tout en sachant aussi qu'il y a de la place pour une croissance avec lui. Si vraiment nous aimons Dieu, ne doutons pas de notre salut, mais tendons à mettre en ordre notre vie, afin qu'elle puisse reposer sur un double socle solide, et ce sera le titre de la prédication, obéissance et relation. C'est ce sur quoi doit se baser notre salut, une relation avec Dieu et une vie dans l'obéissance. Et les deux puissent leur source dans notre amour pour Dieu. Dès qu'il y a un problème dans notre relation avec Dieu, c'est qu'il y a un problème d'amour. C'est qu'on a placé autre chose à la place de Dieu. C'est tout le combat de Dieu avec son peuple dans l'ancienne alliance. Le peuple n'a cessé de remplacer Dieu par des idoles, par d'autres choses. Et nous, dans notre vie, qu'est-ce qui est ma première préoccupation ? Est-ce Dieu ou est-ce, je sais pas, ça peut être un projet de carrière, ça peut être des études, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi, mais qu'est-ce que je place au centre de ma vie ? J'aimerais prier pour nous. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta présence parmi nous ce matin. Je te remercie, Père, parce que tu poses sur chacun d'entre nous un regard bienveillant, un regard d'amour. Je te bénis, Père, de ce que tu ne pointes le doigt sur personne ce matin, que tes bras sont encore grands ouverts et remplis d'amour. Je te remercie parce que nous pouvons encore te demander pardon ce matin. Je t'aide de prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que tu nous aides, Seigneur, à remettre notre vie en ordre, à solidifier cette relation avec toi. Si cette relation est brisée, Seigneur, alors aide-nous à la renouer, aide-nous à revenir à toi, parce que toi, tu ne t'éloignes pas de nous, Seigneur. Tu te montres toujours présent dans notre vie, même si nous ne t'écoutons plus, même si nous ne voulons même plus te regarder. Tu restes là, tu continues de nous aimer, de nous protéger. Je te prie, Père, que nous puissions veiller sur notre relation avec toi comme ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, Seigneur. Que nous puissions revenir à ce fondement. Afin que nous puissions briller, Seigneur, là où nous sommes, là où tu nous as placés. Afin que lorsque tu nous demandes quelque chose, Seigneur, nous ayons le courage de l'accomplir. Et être les témoins de ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Je te demande, Père, de poser ta main sur chacun d'entre nous. Tu connais les cœurs de chacun, les combats, les luttes. Tu connais ceux qui se culpabilisent, Seigneur, ceux qui ou une mauvaise estime d'eux, ceux qui se dénigrent. Je te prie de les consoler, Seigneur, parce que ce qui compte, ce n'est pas le regard que nous posons sur nous, mais le regard que tu poses sur nous. Et ce n'est pas le même, Seigneur. Je te prie de consoler nos cœurs ce matin et de nous donner la force nécessaire par ton esprit pour continuer d'avancer, Seigneur. De recommencer à zéro s'il le faut. De se repentir si nécessaire, Seigneur, devant toi. D'accepter ton pardon et de se relever, d'avancer. Je te bénis, Père, pour ton amour. Amen.